franceinter.fr.
Quand on parle de Calais à la radio ou à la presse, c'est pour parler des migrants. C'est pas une bonne image de marque du Calaisie, ça suffit. Quoi. Je veux dire, on en a ras-le-bol. Quoi. Et ça fait des années et des années que ça dure.
Bonjour. C'était le 16 décembre 2002. Ce jour-là, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, fait raser le camp de Sangatte, près de Calais. Ce centre d'accueil pour migrants avait été prévu pour 200 personnes. En 3 ans d'existence, plus de 65 000 ressortissants d'une centaine de pays y auront séjourné dans des conditions devenues à la fin tout à fait insupportables. 12 ans après, si le camp a disparu, le problème de l'accueil des migrants est toujours là. On estime aujourd'hui que 2000 personnes, essentiellement venues d'Afrique, et qui espèrent un passage vers l'Angleterre toute proche, errent dans et autour de Calais et se réfugient la nuit dans ces bidonvilles que l'on appelle les jungles ou les jungles en anglais. Si une bonne partie de la population calaisienne fait preuve d'une solidarité et d'une compassion tout à fait remarquable envers ces migrants, on sent bien monter aussi un sentiment d'exaspération. Début septembre, 300 personnes manifestent en ville pour demander le départ de ces migrants et l'on voit quelques ténors de l'extrême droite française profiter de la tribune. Il y a quelques jours, ce sont des policiers qui manifestent à leur tour pour dénoncer le flou dans lequel les autorités politiques les ont abandonnés pour gérer cette présence étrangère. Yann Gallic et Laurent Macchetti viennent de passer quelques jours à Calais pour recueillir l'avis de ses habitants sur ce problème qui dépasse tout le monde et qui touche chacun. Calais, le grand dérangement.
Interception, le magazine de la rédaction.
The way into the harbor.
Why? Where do you want to go?
England.
England. Where are you going?
Where is it?
This way, 1 kilometer.
On est à rue des Garennes, en pleine zone industrielle. Vous avez pu voir tout au long de l'avenue des migrants qui attendent le passage d'un camion pour essayer d'y grimper. Voilà. Même en plein jour, ils essayent.
On voit aussi des voitures de police qui passent.
Ah bah oui.
Et là, on est au milieu des usines, puisque Thioxide, c'est le nom d'une usine chimique, voilà. C'est ça ?
À Capitaux Américains.
Donc là, les migrants sont vraiment sur un terrain pas des plus sains.
Hein. Tout à fait, une partie certainement polluée, on ne sait pas trop par quoi, mais bon, en même temps c'est un terrain sableux, quand il pleut, il n'y a pas trop de flaques d'eau. C'est pas la pire des jungles ici du coin. Vous verrez, vous allez s'organiser une vraie vie en communauté, vous allez découvrir ça.
Il y a plein de petites tentes, des abris aussi avec des palettes, oui, c'est vraiment un camp de fortune. Quoi.
Exactement, le terrain n'est pas très propre parce qu'il n'y a pas de poubelle et pas de sacs plastiques. Quand ils ont des sacs plastiques, c'est plutôt pour renforcer les abris de fortune. On a essayé de monter des opérations de nettoyage. On en a monté une la semaine dernière. On a peut-être sorti 20% des morceaux de plastique ou autres qui étaient sur le terrain. Voilà, on va recommencer.
Vous venez régulièrement ici ?
Oui. Oui, parce qu'on vient chercher quelqu'un pour l'amener à l'hôpital, on vient voir des nouveaux arrivants, savoir quels sont leurs besoins, on vient voir des amis, parce qu'il y a des amitiés qui se nouent aussi avec tel ou tel d'entre eux, on vient voir un petit peu comment ça se passe, effectivement, régulièrement.
Les migrants, ce sont jamais les mêmes, et ça tourne beaucoup, tous les 15 jours, 3 semaines
Oui, j'étais très impressionné il n'y a pas longtemps. J'ai regardé un reportage de vos confrères de la 5 qui datait de fin juin. Et tous les gens qui étaient interviewés, ils ne sont plus là. Ça tourne beaucoup. Il y a des nouveaux arrivants tous les jours. Apparemment, une trentaine sont arrivés hier, ici, sur cet espace-là. Il y a des gens qui réussissent à passer en Angleterre quand même, quelques-uns. Il y en a qui repartent. Il y en a qui sont arrêtés par la police. On ne le sait pas trop bien, même s'il y a des associations qui les suivent. Donc effectivement, il y a des flux permanents. Et les gens, on peut estimer que leur durée moyenne de présence ici est de l'ordre de 2 mois, mais certains sont là depuis 6 mois, puis d'autres restent là 15 jours et disparaissent.
Et est-ce que ces réfugiés se réunissent en fonction de leur pays d'origine ?
Il y a des dominantes, effectivement, par jungle. Vous avez celle de Loverport, à dominante afghan et pays voisins, pakistanais notamment. Ici, on est sur plutôt une dominante érythréenne. Et par contre, il y a une jungle dans un délaissé derrière un supermarché qui est plutôt soudanaise, effectivement. Et vous avez vu aussi, où vous allez voir le squat, qui est majoritairement soudanais. Effectivement, ils se regroupent par communauté. C'est assez logique, c'est assez spontané. Et puis s'entraide.
On va vous suivre.
Bonjour. Bonjour. Regardez, il y a un petit restaurant qui s'est ouvert ici. Il y a des gens qui préparent à manger, d'autres qui l'achètent. Et puis il y a aussi même une petite boutique de coiffeur qui s'est installée il y a quelques jours. La vie en communauté s'organise.
C'est comme une petite ville qui est en train de se créer.
Comme un gros village, vous voyez, les tentes sont réparties tout autour d'un terrain. Les Africains ont tendance à reconstituer les habitations autour d'une grande place. Ici, c'est le terrain de foot et puis tous les gens autour. Hello.
Quel est votre nom ?
Adam Ahmed.
Quel âge avez-vous ?
26.
J'ai 26 ans.
I'm Sudanese. Je suis Soudanais. Oui.
Quand êtes-vous arrivé à Calais ?
Ça fait deux semaines environ. J'ai quitté mon pays parce que je voulais vivre en paix, en sécurité.
Combien vous avez dû payer pour venir jusqu'à Calais ?
J'ai payé 2 500 dollars. J'avais un bon travail au Soudan et j'avais fait des économies. J'ai tout payé moi-même. Je suis médecin et aussi écrivain. Dans mon pays, je vivais très correctement, en tout cas bien mieux qu'ici en Europe.
Vous dormez dehors, sous des tentes. Votre vie est difficile ici à Calais.
Oui, oui, la situation est difficile. And my expectation was when I come here,
en arrivant ici, je pensais trouver des organisations humanitaires.
Because the humanitarian organizations normally they
parce que ces organisations reçoivent les moyens nécessaires de la communauté internationale ou d'organisations caritatives.
My expectation was when I come here as a refugee.
Mais ces espoirs ont fait long feu. Parce que je me retrouve sans travail, plus de logement, plus de documents nécessaires pour trouver un emploi. On ne reçoit pas beaucoup d'aide, à l'exception du centre Salam, et qu'ils soient remerciés d'ailleurs pour ça. Ils fournissent aux réfugiés un repas par jour, ils organisent des distributions de chaussures, de vêtements, ils les aident à s'installer, mais bon, ce n'est pas le soutien que nous pouvions espérer. C'est humiliant. Pour les réfugiés, c'est même une situation encore plus humiliante que celle qui les a décidés à fuir leur propre pays. Bien sûr, en tant que réfugié, on savait que ce serait difficile. Mais on ne s'attendait pas à avoir faim, à ne pas savoir où dormir, à ne pas trouver de savon pour se laver. Toutes ces choses si simples que l'on pensait trouver dans un pays membre de l'Union européenne, ça ne coûte rien pour un pays comme la France. Je ne pense pas que fournir ce genre de choses à des réfugiés devrait poser de problème à l'un des plus grands pays de l'Union européenne.
Quelle est l'attitude des habitants de Calais envers vous ? Est-ce que vous sentez plus de violence ? Plus de crainte.
Moi, je n'ai pas été témoin d'actes de violence depuis que je suis là. Et je n'ai pas non plus observé de problèmes particuliers entre les réfugiés et les habitants de Calais. Mais je sens bien que les gens sont réservés, qu'ils ont peur de nous. Et c'est peut-être normal après tout. Quand vous voyez des gens se déplacer en groupe, parfois on a l'impression d'être observé avec des regards différents. Teinté de racisme. Mais je pense que c'est un problème qui relève du gouvernement français. On ne peut pas en vouloir aux gens de Calais. C'est la responsabilité du gouvernement français. Par exemple, quand les réfugiés arrivent en France et qu'ils demandent l'asile, ils sont intégrés ici. Ça veut dire qu'ils apprennent la langue, la culture, ils apprennent à respecter les lois et les règlements. Le gouvernement français organise tout cela pour les réfugiés. Il prépare les réfugiés à leur intégration dans la société française. Mais le gouvernement oublie de préparer les Français à accueillir ces réfugiés.
Merci beaucoup and good luck. Bonne chance.
Thank you.
I was not in Salam last days because I come in Salam specially Thursday and Friday for food.
I go tomorrow, you give me tickets. Please call me today. Sorry. I don't know what to do now.
Sorry, I'm busy. I cannot go every evening. Sorry.
François Guénoc, quand vous arrivez dans ce camp, tout le monde vient vous voir pour des chaussures, des vêtements.
Bah, hélas, je suis un peu... Dans l'association, c'est moi qui suis responsable de la distribution des vêtements, chaussures, couvertures et autres bonnets, écharpes. Et je suis un peu repéré pour ça. Alors évidemment, je suis très sollicité. C'est pas toujours agréable. De temps en temps, je suis vraiment content qu'il y en ait un qui vient juste me dire bonjour, juste pour me dire bonjour, et pas seulement parce qu'il a besoin de ceci ou de cela. Mais bon, c'est comme ça. Et de toute façon, il y a tellement de besoins. À leur place, je ferais pareil.
Et là, on cherche toujours les jeunes femmes. Voilà. À qui vous vouliez proposer de prendre une douche.
Voilà, je voulais les emmener chez une amie pour prendre des douches. Apparemment, c'est pas facile de repérer des gens là-dessus. Il y a, quand vous voyez que c'est un très gros village. Hein. Il y a quoi? Il y a peut-être 300 tentes hein, ici. Peut-être un peu moins. On estime qu'à 600 personnes, mais on est incapable de le dire exactement le nombre. Donc c'est pas forcément. Alors, je vais rester stationné là, ils vont bien finir par venir me voir. Oui, il y a un migrant qui a des chaussures, il y a des chaussures de femme. Alors, je vais essayer de lui en trouver d'autres ce soir.
À Calais, le nombre de migrants a été multiplié par 4 depuis le début de l'année. La plupart d'entre eux viennent d'Afrique, essentiellement du Soudan et d'Érythrée. Ces exilés se retrouvent coincés ici, sans toit et sans argent. Alors, faute de mieux, ils s'installent dans des usines désaffectées, des maisons abandonnées ou des tentes plantées au milieu des dunes, dans ces campements sauvages que les Calaisiens appellent la jungle. Désormais, certains habitants affichent clairement leur hostilité envers les migrants. En septembre dernier, des lycéens ont attaqué un squat à coups de cocktail Molotov. La justice les a condamnés à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison.
Ça fait 3 ans que j'habite ici, ça fait quand même quelques années que je les côtoie. Donc ils passent tous les jours, matin, midi et soir. Donc il y a quelques années, on en voyait quand même moins. Et le fait que certains squats ont été vraiment détruits en centre-ville, en fait, ils ont été un peu éparpillés dans toute la ville. Et donc là, maintenant, ils sont plus nombreux de ce côté-ci de Calais. Parce que le squat, justement, se trouve dans les usines. Donc voilà, ils vivent ici.
Vous donc, faites quoi dans la vie, Catherine ?
Je suis professeur.
Dans un lycée, dans un collège ?
Oui, dans un lycée professionnel, en fait. Et dans mes classes, j'ai aussi des migrants. Donc nous, on est habitués, on travaille avec des Syriens, des Érythréens, des Soudanais, etc. Et ils viennent passer au minimum un CAP chez nous, quoi. Mais la population locale, même les élèves localement, ont eu du mal à les accepter dans les classes. Ont eu du mal, oui.
Il y a un rejet ?
Quand même assez, oui. Ouais. Il y a une frange quand même des élèves qui ont des propos racistes, qui ont des gestes déplacés ou qui nous disent qu'il faut les mettre dans un bateau, les noyer, etc. Quoi. On a énormément de problèmes avec ça.
Ici, dans le quartier, donc, il y a une bonne douzaine de maisons.
Oui.
De l'autre côté de la rue, il y a donc le camp de migrants installé sur un terrain vague, près de 600 migrants.
Oui.
Est-ce que ça pose des problèmes avec le voisinage ?
Il n'y a jamais eu d'agression ici dans le quartier. Ce que je ressens par contre, moi je vois, c'est le changement de mes voisins. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont plus nombreux là maintenant, les gens ont un peu peur. Parce qu'ils ne sont que des personnes âgées ici, c'est une rue très tranquille, d'anciens commerçants qui sont en retraite. Et là, depuis que les certains camps sont installés, et vraiment là j'ai énormément de passages, j'ai même des bandes de 20, 30, 40 personnes qui passent. Et je pense que l'effet de les voir en nombre, les gens sont effrayés. Moi personnellement, ça ne me dérange pas parce que moi je donne de l'eau, je donne des fruits, etc. Donc il y a beaucoup de femmes avec des enfants qui sont passées, qui nous ont demandé de l'aide, donc nous on les a aidés, mais je sais que mes voisins sont contre. Je sais que dans certains magasins, moi proche de la rue ici, ça crée des soucis. Hein. Moi j'y suis allée au mois de juin faire mes courses dans un magasin et j'étais entourée de 100 migrants, 150 migrants. C'est particulier dans le magasin, beaucoup de gens ne se lavent pas. Donc ça sent très mauvais dans les magasins, etc. Donc là, je sais qu'il y a un magasin qui ferme boutique, la rue Molien, justement, parce qu'il y a trop de migrants et ça fait fuir la population locale. Ils ont perdu 70% de leur chiffre d'affaires, les gens n'y vont plus. Donc même moi, maintenant, j'ai du mal à y aller. Franchement, il y en a trop dans les magasins. Et c'est vrai que ça fait 3 ans qu'ils passent. Bon, c'est tout, quoi, ça. Mais je sais que les voisins, ça les dérange.
D'ailleurs, là, on est dans votre jardin et le portail est grand ouvert.
Oui, moi, je ne ferme pas.
Vous n'êtes pas barricadée.
Non, je ne suis pas barricadée. C'est vrai, eux, je sais qu'ils ferment. Mais je peux comprendre aussi une différence de génération. Les gens, c'est pas la même chose. Ils ont été cambriolés aussi. Ça fait 30 ans qu'ils sont là.
Vos voisins.
Ouais, juste proches à côté, ce sont deux retraités. Là, c'est une dame seule. Elle est seule. Alors, je peux comprendre. Hein. Des fois, elle me dit, moi je suis seule, elle voit des gens, des bandes passer, 30 à 40 personnes, elle a toujours un peu peur qu'ils rentrent chez elle. Bon, je me mets à leur place aussi, franchement, c'est pas si grave. Moi, je me sens pas en danger ici. Mais bon, je sais que là, il y a eu une agression à Calais, ils ont lancé des cocktails Molotov, c'était 2 élèves à moi.
Oui. Les cocktails Molotov qui ont été lancés contre un squat d'Égyptiens à Calais, voilà. Récemment.
Et ce sont 2 élèves à moi. Et dans mes classes, la discussion sur les migrants, dans les lycées, dans tous nos cours, la discussion sur les migrants se pose. Cet élève-là avait été agressé par un migrant, donc il avait volé sur lui son téléphone, etc. Il avait une haine, ça s'est senti, de toute façon, il a été porté plainte. Mais je leur ai dit, ne faites pas justice vous-même, laissez la justice. Et ils me disent, mais oui, mais il y en a trop, voilà, il y a des conflits, il y a des bagarres, tout le monde se sent en insécurité. Nous, on a été avertis au lycée lundi matin, comme quoi ils étaient incarcérés à Londres, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai que nous, franchement, moi j'ai eu les bras qui sont tombés quand j'ai su que c'était mes élèves, quoi. Mais j'ai entendu quand même dans la classe des réactions d'élèves qui ont dit faut espérer qu'ils en ont quand même touché un ou deux, ou bien voilà, ça y est, Calais se bouge un peu, ça y est, les gens vont commencer à bouger un peu. On sent quand même qu'il y a des choses qui se disent, hein, je pense, dans certains foyers, dans certaines maisons. C'est un acte isolé pour le moment, mais il faut espérer quand même que ça se reproduira pas. Enfin, je sais pas, ça reste. Moi, j'ai des élèves qui sont très, très, très remontés contre les migrants. Il y a un racisme vraiment fort, quoi.
C'est bon, je reste là, moi, je dors.
Calais, c'est. Nous sommes proches de 1 800 000 camions par an et un peu plus de 10 millions de passagers. Ce qui nous place en quatrième port, au rang du quatrième port français, tout confondu, derrière Marseille, Le Havre et Dunkerque. Et nous sommes le deuxième port au monde de voyageurs, le premier étant juste en face, en Grande-Bretagne, puisque c'est Douvres.
Jean-Marc Puissosso, donc vous êtes le patron de la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale, gestionnaire du port de Calais. Depuis plusieurs mois, on assiste à un afflux de migrants à Calais et dans la région. Est-ce que ça a eu des conséquences économiques pour l'activité portuaire à Calais ?
Alors, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'affluence de migrants, le blocage qu'ils ont réussi à faire, les intrusions qu'ils ont faites, aient pénalisé notre chiffre d'affaires. Par contre, au point de vue image du port de Calais, je pense que celle-ci en a pâti. Donc nous devons réagir rapidement, parce qu'on ne peut pas laisser cet axe routier important perturbé par des migrants qui essayent de gagner la Grande-Bretagne. Leur comportement est aujourd'hui tout à fait nouveau. Des migrants à Calais, il y en a depuis 10-15 ans, depuis la guerre de Yougoslavie. Les migrants et la population calaisienne, les chauffeurs routiers, tout se passait d'une façon relativement harmonieuse. Aujourd'hui, depuis maintenant 2-3 mois, non seulement nous avons une augmentation très importante du nombre de migrants, mais leur comportement est tout à fait nouveau. Ils sont beaucoup plus agressifs. Et nous avons affaire, je crois, à des gens qui sont très désespérés et qui, coûte que coûte, veulent aller en Grande-Bretagne. Et ils tentent des actions, soit vis-à-vis des particuliers, des touristes, pour essayer de monter dans des caravanes ou dans des voitures, ou aborder des camions, chose que nous n'avons pas connue auparavant. Donc ce comportement est la preuve de leur désespoir. Mais c'est aussi pour nous, si nous n'y remédions pas, ça peut être une catastrophe économique.
Et vous le disiez, ces migrants qui autrefois essayaient de passer la nuit, aujourd'hui on les voit en plein jour, le long de la route qui mène au port avec les camions qui attendent. On voit des CRS aussi tout le long de la route. C'est devenu plus violent, beaucoup plus tendu.
Il y a beaucoup plus de concurrence. Puisqu'il y a beaucoup plus de migrants, nous estimons à 1500, 1600 le nombre de migrants. Je crains que d'ici 3 mois, il soit le double. Effectivement, aujourd'hui, les migrants, nous les retrouverons jour et nuit dans toute la ville et autour de la ville. J'ai moi-même assisté le 31 août à certaines scènes. Plusieurs migrants autour d'une voiture, en tapant ou en essayant d'ouvrir les portières, avec des enfants qui effrayaient, criaient et pleuraient. Si nous ne faisons rien pour rendre sécure l'accès au port, nous aurons immanquablement une baisse de trafic. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter, parce que d'abord, nous avons sur le port 700-800 personnes qui travaillent, mais nous avons aussi 3 compagnies maritimes, avec des centaines d'emplois sur chaque bateau, et avec une rentabilité très indécise, parce qu'il y a une grande compétition entre eux, et puis parce qu'ils ont des concurrents à l'est ou à l'ouest. Donc, ils ne peuvent pas supporter d'avoir une baisse de chiffre d'affaires.
Ça consiste en quoi, la sécurisation du port de Calais ?
Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que 2 fois, nous avons eu des tentatives et 2 réussites, d'ailleurs, d'incursion de centaines de migrants sur le port. Donc, nous devons y pallier. Il y a aussi des grillages qui existent aujourd'hui, mais qui n'empêchent pas les migrants d'accéder dans le port pour après essayer de monter à bord des ferries. Et puis, nous avons un axe routier qui, aujourd'hui, est complètement ouvert et qui permet aux migrants, sur à peu près, on va dire, cette rocade fait plusieurs kilomètres, bien sur cette rocade, lorsqu'il y a un ralentissement, de venir sur la rocade. Et puis, comme les camions ralentissent, profitent de ces ralentissements pour essayer d'ouvrir les camions et de monter à bord. Et parfois, au détriment des chargements. Donc, la sécurité consiste aujourd'hui à protéger l'autoroute sur à peu près 2,5 km de chaque côté. Pour, on va dire quoi ? On va dire un couloir sécurisé.
Donc vous allez mettre des grillages tout le long de cette autoroute.
Et oui, je suis obligé, je n'ai pas trouvé d'autre solution. Moi, ce n'est pas de gaieté de cœur que je fais cela, mais si je ne le fais pas, eh bien, c'est l'image du port du Calais, c'est l'économie du port de Calais qui va en souffrir. Ce sont des dizaines ou des centaines d'emplois, et ça, je ne peux pas le supporter.
What's your cargo? Bottles?
Glass, yes.
Hey, il y a du monde là!
Oh, il y a du monde! Vous savez combien ça coûte ça? Open the door!
Il y a l'autre qui est là-bas?
C'est pas ça là, descendez!
Hey, yes.
Allez, dehors tout le monde!
Moi, c'est Benjamin Quénéan. Je travaille ici depuis 2007. Je fais des livraisons en Angleterre, puis je reviens. Mais la sécurité, elle y est plus. Quoi.
Vous êtes chauffeur routier chez RDV Transport. Hein.
Ouais, voilà. Bah, déjà, quand on arrive et qu'on est bloqué sur l'autoroute, bah, on les voit tous arriver sur nous, à couper les cordons au tir, ou à découper dans les bâches, même à ouvrir nos portes. En plein jour, en pleine nuit, peu importe l'heure qu'il est, il se cache plus maintenant. Ce matin, il y en avait encore sur l'autoroute en train de marcher. Quoi. Si on essaye de les faire sortir de nos remorques, il y en a certains qui ont des couteaux sur eux ou des bâtons.
Est-ce que vous avez déjà été agressé par des migrants ?
Non, mais j'ai déjà eu certains migrants qui ont voulu rentrer dans ma remorque. Quoi. Chose que, comme ça s'est libéré d'un seul coup, j'ai pu repartir et ils ont abandonné. Mais il commençait déjà à vouloir couper le cordon et à monter dans la remorque.
Quand vous voyez des migrants qui cherchent à rentrer dans votre remorque, quelle est votre réaction ?
Bah, on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on descend du camion ? Est-ce qu'on continue dans les voies ? On ne sait pas du tout comment réagir quand ça nous arrive. Surtout que des fois, quand on descend de la cabine, il y en a une centaine devant nous. Donc tout seul contre ça, on peut pas faire grand-chose.
Quand vous passez par le port de Calais, est-ce que vous avez une petite appréhension maintenant ?
Ouais, beaucoup. À savoir comment ça va se dérouler. Est-ce qu'il va y avoir un embouteillage ? Est-ce que où ça va passer directement ? Est-ce qu'ils seront là en train de nous attendre ? Ou est-ce qu'il y aura personne ?
Ouais. Ça se passe comment, les contrôles sur le port ?
Alors, on arrive sur le port, on passe soit au scanner, soit un contrôle CO2. Le scanner, en fait, ça fait des rayons X qui voient à travers la remorque. Ou le scanner, c'est ils mettent des sondes sur la remorque et le camion, et il contrôle s'il y a des battements de cœur. Et à certains moments, les Anglais nous demandent de refaire encore un contrôle de leur côté. C'est-à-dire que là, ils dépompent carrément la remorque et ils montent dedans. Ça peut prendre soit 10 minutes à quart d'heure, comme ça peut prendre une heure. Ça dépend en fonction du nombre de camions sur le port.
Donc Jean-Pierre Devigne, chef d'entreprise dans le transport de la société RDV Transport qui existe depuis 23 ans. Le problème, c'est que nous, c'est notre outil de travail et que notre outil de travail est détérioré et nos personnels sont quand même de plus en plus dans l'insécurité. Ce qui vient couronner le tout, outre ce problème, et on est en train de monter au créneau, nous les transporteurs, c'est qu'on considère qu'on est pénalisé deux fois, c'est-à-dire la difficulté d'effectuer correctement notre travail et surtout les amendes que l'immigration anglaise nous inflige. Moi-même, je suis sur le coup de 3 dossiers qui va représenter au bas mot 10 000 euros. C'est-à-dire qu'on passe les contrôles CO2, tous les contrôles existants sur le port de Calais. Mais dès l'instant où on arrive dans les lignes d'embarquement et on est considéré être sur le territoire anglais, les Anglais passent avec les chiens ou le matériel CO2. S'ils trouvent des migrants à l'intérieur, on est pénalisé. Donc 400 livres, 500 livres, 1500 livres par migrant découvert dans nos véhicules. J'ai déjà payé 17 000 euros pour plusieurs dossiers. C'est scandaleux. Là, je vais acheter pour 3 000 euros de cadenas pour distribuer à mes conducteurs parce que pour essayer de dissuader, quand on arrive au ferry, les migrants de monter en marche dans les camions. Quand ils verront un cadenas, je suppose que ça va peut-être les dissuader, mais ils essayent de rentrer par les côtés, ils asserrent les bâches ou ils montent par-dessus les remorques et ils passent par les toits, au risque de se blesser ou de se tuer, parce que c'est quand même très dangereux et en plus, ils nous abîment les marchandises. Et on est obligé de demander à nos conducteurs de ne pas s'arrêter à moins de 200 km de Calais. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont des camps partout, sur la 16, sur la 26. Et ils profitent de l'arrêt dans les stations des camions pour grimper dedans.
Dans les stations essence?
Oui, notamment. Il y en a partout. Moi, j'ai fréquemment des contacts avec le directeur de la sécurité. Entre 6h du matin et 14h, ils vont en prendre entre 75 et 100 dans les camions. Donc tout le monde est excédé, la chambre de commerce, la PAF, les CRS. On a l'impression que les gens sont là, mais qu'il n'y a pas de solution.
Eh bien, allez, tu le fais. Donc moi, je fais la salade.
Les bananes.
L'assaisonnement de la salade, il est où?
Bonjour.
Ah, une pan agneau. Bon appétit. Non, salade, si, c'est bon, salade. Faites avec amour.
Des réfugiés clandestins désespérés, des riverains et des chauffeurs routiers exaspérés, des pouvoirs publics impuissants, la situation est devenue ingérable. Chaque soir, les associations calaisiennes distribuent près de 800 repas aux migrants dans une ambiance parfois chaotique.
Vous n'étiez pas dans cette ligne, oui ? Vous ne passez pas devant nous, ça c'est pas possible.
Les ONG et les services sanitaires sont débordés, les policiers aussi. Cet été, 120 CRS sont venus renforcer la sécurité autour du port. Mais pour les syndicats de police, les effectifs restent largement insuffisants.
Je me présente, je suis Gilles Debove. Je suis représentant permanent pour le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière sur le Calaisie. Donc j'ai en charge la PAF Calais, le commissariat de Calais et la PAF Dunkerque.
La police aux frontières, donc.
Voilà, tout à fait. En fait, ce qui a changé depuis quelques mois, c'est qu'on a eu une large baisse du flux migratoire vers Calais dans les années 2009, 2010, 2011. En 2014, ça a augmenté. Pourquoi ? Parce que, bon, il y a effectivement les effets du printemps arabe. Il n'y a plus aucune frontière au nord de l'Afrique qui est tenue. Et on a un afflux massif d'Érythréens, Somaliens, pays où forcément ça se passe très mal vu les régimes dictatoriaux qui sont mis en place là-bas. Donc on a une grosse arrivée. Les 6 premiers mois de 2010, on était à 3500 tentatives d'intrusion dans le port de Calais. Sur les 6 premiers mois 2014, on a 10 500, donc 3 fois plus. Juillet et août, c'était 3000 par mois. Là, ça a tendance plus ou moins à baisser avec le renfort des collègues CRS qui sont arrivés. Les passeurs existent toujours. Maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec l'effet de masse, les problèmes financiers également, parce qu'ils n'ont pas trop d'argent, les migrants tentent par eux-mêmes, par vague. Il n'a pas été rare de voir à peu près 500-600 migrants sur la rocade qui prenaient d'assaut par petits groupes de 20 les camions qui arrivaient et qui étaient stoppés par les contrôles.
Quelle est la scène la plus impressionnante à laquelle vous avez pu assister sur le port ?
Oh, la plus impressionnante, ça s'est déroulé cet été au moment des retours de vacances des Britanniques, où là on était mêlé à un flot de routiers et un flot de touristes britanniques, où il y avait une retenue d'à peu près 3 km sur la rocade, et là où on voyait les migrants slalomer entre les véhicules, essayer d'ouvrir les camping-cars, essayer de se glisser sous les camping-cars. J'en ai même vu sauter d'un pont sur les bâches des camions. Ça a été une journée particulièrement terrible pour les fonctionnaires de police et puis aussi pour les usagers.
Est-ce que les policiers aujourd'hui sont débordés ?
Oui, ils sont débordés, effectivement, mais on assiste à un autre problème. C'est qu'effectivement, la rocade et les moyens qui vont être mis en place vont assurer la pérennité et la sécurité du port. Outre cela, les migrants sont toujours dans Calais. Donc effectivement, là, on assiste depuis quelques mois à une explosion des chiffres en matière de délits de droit commun. Vol, tentative de viol, vol de portable, agression, menace avec arme. Récemment, il y a encore un migrant qui a été poussé dans le canal et qui est mort noyé. On a eu des collègues qui ont été braqués par des passeurs. Voilà, nous, ça va être notre lot maintenant, à savoir que bon, bah, ils vont continuer de tenter, c'est une chose. Mais ils ne le feront plus sur la rocade, mais ils le feront en ville. Et en ville, c'est un peu plus délicat. On a quand même une population qui commence à avoir peur. Le souci également qu'on peut rencontrer, c'est qu'un bon nombre de migrants mis en cause dans une affaire pénale, on n'a pas de réponse du parquet.
Il y a maintenant un problème de sécurité dans la ville même de Calais, et ça, c'est nouveau ?
Oui, c'est nouveau. Les migrants étaient beaucoup moins agressifs. Maintenant, étant donné qu'ils sont très nombreux, on repart un peu dans un système qu'on a connu à peu près en 2001-2002.
Donc à l'époque de Sangatte.
À l'époque de Sangatte. Le seul point positif, c'était que Sangatte était quand même à l'extérieur de la ville. Il y venait que pour la nuit, essayer de grimper dans les camions. Et là, maintenant, on s'aperçoit que les parcs sont littéralement, je ne vais pas dire squattés, parce qu'ils ont le droit d'aller dans les parcs. Mais ils sont très nombreux et ils circulent en masse. Il y a une forte consommation d'alcool. Comme en plus, ils mangent très peu, donc forcément, ça joue sur leur état physiologique. Puis, je vous dis, beaucoup de vols de portables, beaucoup de vols dans les magasins. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, les commerçants ici, parce qu'on m'en a fait part tout à l'heure, quand ils prennent un migrant parce qu'il a volé pour manger, il n'y a pas de réponse pénale parce que il faut bien qu'ils se nourrissent. A contrario, s'ils veulent limiter l'arrivée de migrants dans leur magasin pour pouvoir gérer, on peut les poursuivre pour interdiction de pénétrer dans leur magasin. Donc c'est ça, tout ça, ça se rajoute à notre travail. Une autre problématique également, c'est la montée des extrêmes. Donc on a la montée de l'extrême gauche, on a la montée de l'extrême droite. Puis on se rend compte que il commence à y avoir des gens qui font leur propre police. Et ça, c'est également à la police de gérer, à la police, la sécurité publique. Et là, les Calaisiens, je pense qu'ils en ont réellement ras-le-bol. Et ce qu'ils veulent, eux, c'est leur sécurité. C'est pouvoir se dire, je vais envoyer ma fille me chercher la baguette le matin ou le soir en toute tranquillité et de ne plus pouvoir le faire.
France Bleu Nord, merci d'être là. Il est 8h01. Un rassemblement anti-migrants était organisé hier après-midi devant la mairie de Calais.
Organisé par le collectif Sauvons Calais, proche de l'extrême droite. Entre 150 et 300 personnes y ont pris part. Objectif, dire leur ras-le-bol face à la présence des migrants. Kevin Reich est le fondateur du collectif Sauvons Calais. Il est revenu hier sur le projet de centre d'accueil de jour pour les migrants, pour lequel le gouvernement vient de donner son feu vert.
Ce n'est pas une bonne idée du tout, parce que c'est un centre ouvert, donc les habitants aux alentours seront forcément touchés. Il y a aussi le problème du financement.
Le 7 septembre 2014, des groupes d'extrême droite organisent une manifestation devant la mairie de Calais. Ce rassemblement contre les migrants est ponctué d'appels à la haine raciale et de référence à l'Allemagne nazie.
J'ai décidé de créer ce collectif parce que tous les Calaisiens étaient concernés mais restaient tous dans leur coin et avaient peur de s'exprimer, justement de peur d'être catégorisés de racistes ou de fachos ou autres. Donc voilà, j'ai créé ce collectif, ensuite nous nous sommes unis, puis on commence à faire des actions, etc.
Vous êtes combien aujourd'hui dans ce collectif ?
Le collectif sur Facebook regroupe 8000 personnes qui viennent essentiellement du Calaisie. Mais après, une fois qu'on est dans la rue, on peut très bien être 60 que 300. Militants vraiment actifs, on compte en dizaines, quinzaines.
Comment ça vous est venu cette idée de collectif ? Quel a été l'élément déclencheur, vous ?
C'est l'augmentation nette de l'insécurité à Calais, mais à cause de l'immigration justement, c'est-à-dire les agressions de la part des migrants qui ont redoublé et ça n'arrêtait pas, c'était vraiment quotidien, tous les jours. Donc quand c'était pas une agression, c'était une ouverture d'un squat ou une manifestation, donc ça devenait vraiment pesant pour Calais, quoi.
Est-ce qu'il y a vraiment une insécurité liée à cet afflux de migrants aujourd'hui à Calais ? Vous avez été vous-même agressé par exemple à Calais ?
Moi non, je n'ai jamais été agressé de la part d'un migrant. Mais sinon, plusieurs Calaisiens, oui, sont venus se plaindre à moi. Mais c'était vraiment quotidien, c'est des choses qu'on n'entend pas parler dans les médias, dans les journaux locaux, etc. Mais l'insécurité est vraiment présente malgré qu'on n'en parle pas, quoi. C'est un migrant qui va demander une cigarette à un Calaisien. Malheureusement, ce Calaisien-là ne fume pas, donc il va se faire agresser. Ou alors, un migrant va demander un portable à un Calaisien, le Calaisien va refuser, il va se faire agresser, bon, etc. C'est tout des choses comme ça.
Kevin, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec des migrants, d'essayer de comprendre un peu quelle était leur histoire, pourquoi ils étaient là à Calais, aussi nombreux actuellement ?
J'ai déjà discuté avec des migrants il y a une année. Bon, malheureusement, je ne parle pas l'anglais ni leur langue natale. Donc voilà, mais bon, là, on est arrivé à un moment où le discours n'est plus possible. Parce que ça n'arrête pas d'augmenter et puis les migrants sont de plus en plus agressifs.
Mais quand vous voyez leur situation dans des squats, dans des camps qui ressemblent clairement à des bidonvilles, hein, là on le voit dans la zone industrielle des Dunes, des gens qui ont fui des pays en guerre, qui ne sont pas là pour le plaisir, est-ce que vous êtes touché par cette situation-là ?
C'est touchant, oui et non. Déjà, dans un premier temps, on ne peut pas prendre tous les malheurs du monde sur notre dos, c'est ce qu'il faut savoir. Et ensuite, si ça serait vraiment des personnes malheureuses, ils n'agresseraient pas les Calaisiens parce que ça leur donne une très très mauvaise image. Et ensuite, on ne les verrait pas sortir des magasins avec des caddies remplis de nourriture ou alors se promener avec des iPhones ou être mieux habillés que nous, limite. Hein. Donc pour moi, ce n'est pas du tout des gens en détresse, c'est plutôt des gens perdus dans une ville et ils ne savent pas ce qu'ils font ici. Donc je préfère pas parler, je préfère agir via des manifestations, des pétitions, etc. Avant, on organisait des sortes de rondes de sûreté. Donc c'était des rondes qui consistaient à, si un migrant par exemple détruisait un chalet pour pouvoir s'y installer, on appelait directement la police. Ensuite on vérifiait les squats s'il n'y avait pas d'agression autour, puisqu'il y a un moment où c'était bien chaud à Calais. Donc là ça s'est un peu apaisé, donc pour l'instant on ne fait plus rien en dehors des manifestations.
Kevin Reich, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'il n'y ait plus de migrants à Calais ?
Oui, on peut dire ça comme ça. J'attends surtout des décisions de la part de la municipalité, mais aussi du gouvernement national. Puisque l'immigration, c'est pas un problème municipal, c'est plutôt un problème national, voire même européen. Donc ce que j'attends surtout, c'est des décisions des politiciens. Et puis, par la suite, oui, pourquoi pas plus d'immigration à Calais, si c'est possible, quoi.
Je m'appelle Samir, j'ai 24 ans.
Pourquoi vous avez quitté l'Afghanistan ?
Parce que nous avons beaucoup de problèmes en Afghanistan. Des problèmes politiques entre les talibans et le gouvernement. Il n'y a pas de vie possible. C'est pour ça que nous avons fui le pays.
Vous aviez un métier en Afghanistan ?
J'avais un boulot en Afghanistan. Je travaillais comme traducteur pour les Américains. Mon espoir, c'est de rejoindre l'Angleterre pour être en sécurité, pour avoir une vie meilleure et plus humaine, juste une vie normale.
Vous êtes venu ici tout seul ?
Oui, je suis tout seul. Mais il y a beaucoup de gens ici, beaucoup d'Africains. C'est comme un camp.
Et vous dormez ici dans cette tente ?
Je dors ici, mais c'est très difficile. Le matin, nous avons besoin de prendre une douche, mais il n'y a pas d'équipement, pas de nourriture. C'est une vie compliquée.
Combien vous avez dû payer pour venir jusqu'ici ?
L'Afghanistan jusqu'en France, j'ai dépensé environ 14 000 $. Je suis sorti clandestinement d'Afghanistan pour aller en Iran. Ensuite, je suis passé par la Turquie, la Grèce, l'Italie et la France.
Vous disiez que votre vie est difficile ici à Calais. Vous vous attendiez à ça ?
Lorsque j'ai quitté mon pays, je n'avais pas de problème économique. Je gagnais bien ma vie, mais les talibans m'ont menacé. Ils m'ont dit, si tu travailles pour les Américains, on te tuera. C'est pour cette raison que j'ai quitté l'Afghanistan. Mais je ne m'attendais pas à vivre dans de telles conditions en venant en France. Parfois, je me dis qu'il vaudrait mieux retourner en Afghanistan pour mourir. Car ici, ce n'est pas une vie, c'est tellement difficile. Nous sommes comme des animaux.
Ce soir, vous essayerez à nouveau de passer en Angleterre ?
Évidemment. Chaque nuit, nous essayons de passer.
Pour compléter le reportage que nous venons d'entendre et réalisé à Calais, nous sommes au centre du GISTI, c'est le groupe d'information et de soutien aux immigrés dans le 11e arrondissement de Paris. Nous sommes en compagnie de Claire Rollier, vous êtes juriste au sein de cette structure. On peut dire que c'est une structure militante ?
Oui, qui s'assume totalement comme une structure militante, même si c'est aussi une structure qui a une expertise reconnue dans ce domaine.
Comment expliquer ce point de fixation de Calais, cette situation qui est en train de devenir et d'avoir les conséquences que l'on a décrites dans ce reportage ?
En fait, la situation à Calais, elle est directement liée à une sorte d'incohérence de la politique européenne d'immigration et d'asile, puisque dans le cadre de l'Union européenne, les États membres sont liés par un règlement européen, qu'on appelle le règlement Dublin, qui permet à un État européen de renvoyer tout demandeur d'asile qui se présente sur son territoire dans l'autre pays européen d'où il provient. Ce qui permet notamment au Royaume-Uni de renvoyer en France ou en Belgique ou aux Pays-Bas un demandeur d'asile qui arriverait à sa frontière. Et dans le même cadre européen, il y a un dispositif qui s'appelle Schengen qui a posé comme principe le libre franchissement des frontières intérieures de l'Union européenne. Ce dispositif Schengen a permis à des étrangers, par exemple des Afghans, de franchir, après être passés par la Turquie, la frontière entre la Grèce et l'Italie, la frontière entre l'Italie et la France, sans trop de difficultés. Arriver dans le Pas-de-Calais, il se trouve confronté au fait que le Royaume-Uni n'est pas dans le système Schengen, n'est pas dans le dispositif et peut fermer totalement ses frontières. Et donc on a une incohérence, puisque des demandeurs d'asile, des personnes en quête de protection qui cherchent à se rendre au Royaume-Uni peuvent peu ou prou franchir les frontières intérieures des autres pays européens jusqu'à arriver à ce mur que constitue la Manche et qui les empêche d'aller dans leur destination si c'est au Royaume-Uni qu'ils veulent aller. En revanche, s'ils arrivent à y passer quand même par des voies clandestines, et on sait qu'il y a beaucoup, il y en a quand même beaucoup qui arrivent à passer, ils peuvent être renvoyés en France. Donc on a là une espèce de jeu très pervers, qui fait de cette région de France une sorte de nasse dans laquelle sont enfermées des centaines de milliers de personnes depuis des années et des années. C'est une situation que tout le monde connaît parfaitement, que les institutions européennes connaissent, que les gouvernements connaissent, et qui finalement est très hypocrite parce que quand on écoute l'Union européenne parler de l'accueil dû aux réfugiés, la Commission européenne, par exemple, invoque souvent un principe de solidarité entre États membres. Mais en fait, il n'y a aucune solidarité. C'est-à-dire que chacun cherche à se refiler la patate chaude. L'Angleterre s'en sort assez bien grâce à sa position géographique. Certains pays sont plus particulièrement confrontés à l'arrivée de migrants ou de demandeurs d'asile. C'est le cas de la Grèce, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de Malte. Dans la plupart des cas, ces pays traitent mal les réfugiés parce qu'aucun autre pays européen ne veut partager.
Face à ce phénomène d'émigration qui n'est pas conjoncturel, on s'en rend compte aujourd'hui. Hein. Et d'ailleurs, vous dénoncez une situation qui fait des milliers de morts tous les ans depuis en gros une vingtaine d'années face à l'Europe. Quelle serait la politique d'immigration idéale ?
Alors, vous savez, le GISTI défend la liberté de circulation des personnes. Il y a un certain nombre de principes qui sont adoptés par les pays de l'Union européenne. Et il se trouve aujourd'hui que la grosse majorité des personnes qui franchissent irrégulièrement les frontières de l'Union européenne proviennent de pays qui sont en guerre et dont personne ne conteste qu'ils ont droit à une protection. D'ailleurs, souvent, ils obtiennent le statut de réfugié. Vous avez entendu les annonces disant qu'il faut accueillir des réfugiés syriens. Le président Hollande avait promis d'en accueillir 500, pendant qu'il y en a 3 millions qui sont partis. Mais enfin, voilà, 500 l'année dernière. On attend toujours de savoir s'ils sont arrivés. Je crois que non. Donc voilà, tout le monde reconnaît que ces personnes qui constituent donc l'essentiel des franchissements irréguliers de frontières devraient être accueillies, mais personne ne s'organise pour ce faire. Et au contraire, on déploie aux frontières, notamment aux frontières sud de l'Union européenne, des dispositifs quasi militaires au nom de ce qu'on appelle, dans le langage institutionnel, un risque migratoire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de négation totale des principes qui engagent l'Union européenne depuis sa création, notamment la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés. Et je pense que plutôt que de se blinder derrière des barrières qui sont pas seulement des barrières virtuelles, ça existe, hein, les visas, mais des vraies barrières, puisque maintenant on construit des murs, de nouveau on construit des murs.
Et y compris à Calais, puisqu'on évoquait dans ce reportage la construction d'une nouvelle clôture pour éviter justement que les migrants aient accès notamment au trafic routier des poids lourds.
Voilà, donc effectivement des barrières se construisent partout. Il y en a à Ceuta et Melilla, dans les enclaves espagnole du nord du Maroc, il y en a entre la Grèce et la Turquie. Et cette division du monde entre pays riches entourés comme des forteresses et pays moins riches dont la population est contrainte à l'exode est peut-être payante à court terme, encore que je ne trouve pas qu'elle soit très payante, mais il faut pas s'imaginer, en tout cas, ce serait peut-être le message qu'on a à dire, que les problèmes de migration peuvent se régler avec des lois de police, avec des matraques, avec des expulsions. Ça fait quand même 15 ans, 20 ans qu'on nous dit qu'on va régler le problème des migrants à Calais et que cette fois-ci, ce sera la bonne.
Merci Claire Rollier. Je rappelle que vous êtes juriste au GISTI, le groupe d'information et de soutien aux immigrés. Merci.
Sachez d'ailleurs que jeudi, France Inter va consacrer beaucoup de place à ces questions des migrations avec une journée baptisée « L'exil des peuples ». La matinale en particulier se déroulera justement à Calais. Calais, le grand dérangement, c'était un reportage de Yann Gallic, prise de son Laurent Macchetti, mixage Emmanuel Couturier. Interception est une émission réalisée par Anne Luro avec l'aide cette semaine de Juliette Acus. Je vous souhaite une très bonne journée, à dimanche prochain.